Ouellette, bon. En direct,
avec JC et Patricia.
Radio X.
Je vais détourner un peu la phrase d'un grand sage de la radio. Parlons syndicats, brassons un peu de marde.
Ah, c'est pas ça?
Les syndicats sont devenus de grands fragiles. Les syndicats la semaine passée, alors que la CAQ, dans son... qui reste à prouver virage à droite, là, a décidé de s'attaquer au sacro-saint syndicat québécois. D'abord, jamais je vais remettre en jeu l'évidence même qu'à une certaine époque, on a eu besoin de ça. On a eu besoin de groupes de travailleurs qui s'unissent ensemble, qui s'unissent pour défendre des droits à une époque, je le rappelle, là, où il n'y avait pas de règlement. Les gens pouvaient travailler 18 heures en ligne à l'usine. On pouvait engager des enfants de 9 ans pour aller démêler des filages dans des machines meurtrières. Pis t'sais. Il fut un temps où il y avait une nécessité. Maintenant, ben, comme le reste, tout ce qui traîne se salit et s'embourbe et en graisse. Et c'est ce qui est arrivé. Les syndicats, c'est devenu un grand fourre-tout d'à peu près n'importe quoi, rempli d'idéologie, où la défense du travailleur en tant que tel, je suis pas certain qu'on est toujours au cœur d'une discussion. Tu sais, dans les réunions des grands syndicats, je suis pas certain qu'on est toujours en train de parler du bien-être des travailleurs.
Ben non, on indique vers qui on fait un plan pour de visibilité pour contrer un candidat qui se présente à des élections. C'est ça qu'on fait.
Ben on fait de la politique.
Ouais.
Puis on fait de l'idéologie. Puis on fait plein d'affaires qui n'ont pas rapport avec les travailleurs. On va aller en jaser avec notre chroniqueur. Bien, hâte d'entendre ce qu'il a à dire là-dessus. Vincent Gelozo, as-tu fait le saut que la CAQ 1 décide de s'attaquer aux syndicats et as-tu fait le saut que les syndicats s'arrachent la chemise du dos de même?
Non. Je te dirais qu'il n'y a rien qui me surprend, étant donné que la CAQ est un parti plus ou moins centristes, donc ils sont capables de piger un peu à tous les pots, à tous les bols à punch. Donc, ils peuvent piger à droite, peuvent piger à gauche. La question, ça, c'est quoi la saveur du moment?
Ouais.
Est-ce que c'est le punch aux fruits? Est-ce que c'est le punch aux raisins?
Beaucoup d'opportunisme. Ouais.
Mais il y a beaucoup. Mais c'est la nature de partis centristes. Ils sont. Puisque c'est le désir, c'est l'obtention du pouvoir.
Ouais.
Les principes sont plus dans éviter les extrêmes. Maintenant, moi, je vais prendre exception à ce que tu as dit au début. Premièrement, un syndicat ne défend pas les travailleurs. Un syndicat défend uniquement ses membres. Si d'autres travailleurs doivent être jetés en dessous du bus, ils n'auront aucun problème à le faire. Mmh. C'est pour ça, par exemple, que quand tu dis qu'originellement, c'était... Ils ont aidé les travailleurs, ils ont aidé leurs membres qui étaient des travailleurs.
Ouais, t'as raison. Les cotisants, exemple, je vais les appeler les cotisants même.
C'est très important, mais c'est aussi pour ça, par exemple... que les endroits où les syndicats sont plus puissants, c'est les endroits où est-ce qu'il y avait un plus long support pour la conscription, parce que les syndicats ont une certaine favorabilité à l'égard de la conscription, parce que ça réduit la compétition sur le marché du travail. Donc, ouais. Ça fait en sorte qu'ils peuvent augmenter les salaires, mais ça fait en sorte que tu vas avoir des gens qui se font... entrer dans l'armée de force. Donc, les endroits où, quand on regarde l'histoire de la conscription, la présence syndicale est étrangement un grand déterminant de la conscription. Les syndicats ont été longtemps associés à de la discrimination. Donc, les premiers syndicats, historiquement... Là je dis rien de nouveau pour les gens qui font de l'histoire des syndicats.
Non, mais
les
c'est important, c'est intéressant.
Aux États-Unis... Les premiers syndicats aux États-Unis sont très anti-immigrants, ils sont très anti-noirs. Le but, c'était parce que les membres initiaux étaient... C'est pas parce qu'ils sont naturellement racistes ou anti-immigrants, c'est que c'est en fonction de qu'est-ce que les membres désirent avoir et ils sont prêts à lancer des gens en dessous d'un autobus pour faire ça.
Bref, ce que tu me dis, ça n'a jamais été blanche-neige, là, les syndicats. Là. Il y a toujours eu... beaucoup d'intérêt à aller chercher et surtout à capturer. Là.
Oui, puis je te dirais qu'il y a une défense à faire des syndicats qui est la suivante. C'est que si tu es dans un secteur privé puis que c'est difficile de négocier des contrats de travail puis que ça prend multiples renégociations de contrats individuels, l'employeur peut vouloir, en fait, négocier avec les employés directement un contrat collectif parce que ça augmente l'efficacité de la ferme, ça réduit les coûts d'aller en négociation collective. Donc, il y a une justification pour que les syndicats existent dans une certaine mesure et qui sont dans l'intérêt de l'employeur et de l'employé. Le problème, c'est que...
C'est ça. Là, l'important, là, ce que tu viens de dire, c'est ça. Là, mais est-ce qu'un syndicat qui fait de la politique représente ses cotisants? T'sais, parce que moi, j'ai des gens qui nous ont écrit à la dernière campagne, Vincent, là, puis qui disaient, moi, je capote, là, mon syndicat fait campagne carrément contre Pierre Poilievre, puis il dit, moi, je paye ma cotisation, ils prennent mon argent, puis moi, je vote pour Pierre Poilievre. Tu sais, là, il y a une distorsion, là.
Ils vont représenter le cotisant moyen. C'est sûr qu'il va y avoir quelques cotisants qui vont peut-être avoir des choses avec lesquelles ils sont inconfortables, mais ça, c'est la nature d'une organisation. La raison pour laquelle les syndicats défendent leur pouvoir politique bec et ongles, c'est parce que ils sont capables, avec des lois qui forcent, par exemple, l'atelier fermé. Donc, si tu veux te joindre à une shop syndiquée, il faut que tu veux te joindre à un employeur qui a une syndicalisation, mais tu dois devenir membre du syndicat.
Ouais.
Ce genre de lois-là qui disent sont très, très importantes parce qu'elles font passer les syndicats au-dessus de ce que tu pourrais dire le naturel syndical vers la possibilité de pouvoir capturer un marché et donc même de réduire la concurrence pour le travail. Et là, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont dire « Mais ça, ça fait partie de l'unité de négociation, c'est nécessaire. » Bon, on a des cas aux États-Unis, ça s'appelle les « right to work laws ». Les « right to work laws », c'est-à-dire que les syndicats peuvent exister, peuvent négocier, peuvent faire tout ce qu'ils veulent, naturellement, la même chose. C'est juste que l'atelier fermé n'existe pas. Les gens ne sont pas obligés de joindre un syndicat. Ouais. Ils doivent volontairement rejoindre.
Ils n'ont pas la formule RAND.
Oui, mais la question, c'est qu'est-ce que le syndicat fait après ça? Est-ce qu'il est plus actif dans les négociations? Est-ce qu'il se concentre sur les missions de négociation, donc les conditions du travailleur? Ou est-ce qu'il se concentre sur d'autres aspects qui sont dans l'intérêt tant du cotisant moyen, mais aussi du leadership du syndicat? Et là, ce qu'on remarque, c'est oui, en fait, quand on enlève ça, ce qui se passe, c'est que les syndicats se concentrent davantage sur les travailleurs.
Ben oui.
Ces lois-là dont je parle, ça s'appelle des « right to work laws ». Les « right to work laws » sont associés avec... aucun effet négatif sur les salaires, une baisse de la syndicalisation, une réduction du taux de pauvreté sont associés avec de la migration vers l'État et surtout une augmentation du taux d'emploi. Donc, il y a plus de gens qui sont au travail. Tous les gens qui sont au travail, leurs salaires n'ont pas baissé en raison de cette réduction du pouvoir syndical. Et on a même des travaux récents qui sont beaucoup plus causaux, donc qui essayent de voir un effet cause à effet. Et ils trouvent qu'en fait, que même dans les endroits où on compare des comtés américains où ces lois-là existent, avec des comtés dans l'autre État à côté, mais qui n'a pas ces lois-là, est-ce qu'il y a plus de mobilité sociale à travers les générations? La réponse, c'est oui.
Wow.
Non seulement ça, mais moi-même, j'ai fait des travaux sur la question des « right to work laws ». Et ce qu'on trouve dans notre article, c'est qu'on a regardé les premiers États qui ont fait ça, puis on a regardé est-ce que le revenu du travailleur moyen, celui qui est dans le bas 90 % de la distribution des revenus, est-ce que ces revenus augmentent après l'introduction de ces lois-là? Puis la réponse, c'est un oui très catégorique. Les revenus du bas 90 % de la population augmentent de manière significative après l'introduction de ces lois-là pour les premiers États qui les ont adoptés.
Donc, là, je reprends... tantôt, ça a passé vite, puis là...
T'es mitraillé des choses.
Non, mais hein? Ben, c'est parfait, parce que je comprends maintenant exactement de quoi tu parles quand tu me parles de right to work laws, là. Mais moi, ma réflexion, quand je t'entends, puis je t'écoute, c'est est-ce que notre problème, c'est justement la formule RAND qui vient carrément d'une autre époque? Là, on parle des années 30, un juge RAND qui a fait la formule suivante, c'est-à-dire vous devez tous payer des cotisations parce que le syndicat travaille pour tout le monde. Si les salaires montent, le vôtre monte aussi. Mais là, on a élargi le mandat, on a rentré l'idéologie, on a un peu laissé les travailleurs... pas sur le côté, mais disons qu'on a englobé beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que... puis là, je sais que là, on touche à... mais j'aime ça avec toi, toucher des vaches sacrées, Vincent. Là, tu sais qu'on parle de gestion de l'offre, là, on parle de formule RAND. Est-ce que c'est une affaire du passé? Est-ce qu'on devrait passer un autre appel?
Bien, c'est une affaire du passé qui n'aurait jamais dû se passer,
ouais.
Qui est un drôle de beau lapsus de ma part, mais
oui.
La raison que c'est important qu'on devrait tant se départir de l'atelier fermé que de la formule RAND, c'est parce que ce qui se produit quand il existe tant le fait que tu dois te joindre au syndicat, mais aussi que tu dois cotiser pour les fins de négociation collective et plus, le syndicat rechange un peu ses missions. Donc, il fait des choses qui sont plus liées à d'autres activités et ils essayent de jouer sur d'autres domaines que la négociation entre employeurs et employés. Et c'est pour ça que, quand je te mentionnais tantôt les résultats que je te soulignais, qu'il n'y avait pas d'effet négatif sur les salaires d'introduire ces lois-là, c'est pas parce qu'on a cassé la force syndicale, c'est qu'on a forcé les syndicats à se concentrer sur les choses sur lesquelles ils devraient se concentrer, c'est-à-dire la négociation collective à l'intérieur des entreprises. Et là, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'effet négatif sur les salaires, c'est parce que la tâche du syndicat change dans ces cas-là, et ce n'est plus une tâche de militantisme politique, c'est une tâche purement d'organisation des relations industrielles.
Donc, c'est plate, comment, hein? C'est un peu plate comme job.
De comment négocier. Bien, c'est beaucoup moins intéressant. C'est moins intéressant pour le syndicat si le chef syndical, s'il veut se présenter en politique parce qu'il n'y a pas une base de pouvoir politique.
Ou s'il veut aller à des conférences climatiques à Dubaï ou des affaires de même. Là.
Oui, mais surtout, et ça, c'est particulièrement important, c'est parce que l'autre résultat que je te mentionnais, que ces lois-là augmentent l'emploi, c'est parce que si les syndicats se confinent aux tâches de négociation collective normale à l'intérieur d'une firme, c'est parce qu'elles réduisent les coûts pour les entreprises en existant. Ça veut dire que les entreprises peuvent embaucher plus de gens.
Ouais.
Quand les syndicats vont au-delà de ça pour pouvoir demander des salaires plus élevés que ce que la productivité justifie, il y a quelqu'un qui doit souffrir. Et ça veut dire des gens qui se retrouvent dans des emplois de moindre qualité, qui se retrouvent peut-être sans emploi, qui se retrouvent en situation d'emploi précaire. C'est ça qui explique le troisième résultat que je te mentionnais, que tu regardes, la présence syndicale, quand on regarde les États, les comtés dans les États qui n'ont pas ces lois-là versus ceux dans l'État avoisinant, mais qui ont ces lois qui réduisent la présence syndicale, les comtés avoisinants ont des taux de pauvreté plus bas, malgré que la présence syndicale est moins forte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une tierce partie qui se retrouve à se faire, disons-le franchement, qui se retrouve à se faire shortchange ou qui a la courte paille, qui se fait avoir par la présence syndicale. Et ça, c'est la chose que je pense qu'il est temps qu'on dise au Québec. Les syndicats ont une place dans la mesure qu'elles améliorent les négociations de travail entre l'employeur et l'employé et rien de plus.
Très intéressant. Merci, Vincent. Toujours un plaisir. Formule Rand, merci, bonsoir. Mais tu sais ce que je pense, hein, ça n'arrivera pas. OK, merci.
Il y a un jour, écoute, il y a un jour où les gens vont comprendre que, notamment, puis je rajouterai une chose, un des pires monopoles syndicaux qui existent, c'est celui dans la fonction publique. Parce qu'à l'intérieur des firmes privées, si un syndicat se retrouve à demander trop, la firme fait faillite, fait banqueroute, et donc le syndicat aussi, les membres perdent. Donc la survie de l'entreprise discipline le syndicat d'une certaine manière. Dans le secteur public, tant qu'il y a un contribuable qui peut payer, il n'y a pas de discipline qui existe.
Hey, c'est vrai, là, ça, c'est un mot du beau filon. Ça,
c'est pour ça que je pense qu'il est temps qu'on le dise franchement au Québec. Quand j'entends Magali Picard, quand j'entends les gens de la CSN, quand j'entends les gens de la CSQ, ce que j'entends, c'est des gens qui ont cette double juxtaposition du monopole public et du monopole syndical et qui s'en servent pour s'avantager eux comme des parties privées, mais qu'il y a une tierce partie qui doit payer, le contribuable québécois qui a des coûts beaucoup plus élevés pour les services publics de qualité médiocre qu'il reçoit.
Merci, Vincent. Bonne journée, c'est extraordinaire.
C'est un plaisir.
Salut,
comme
bye.
Comme Dunlop à McLaren, quand j'ai le temps.
Quand il y a le temps, c'est ça qu'il fait. OK, bye. Vincent Gelozo, professeur au George Mason University, économiste senior à l'Institut économique de Montréal. Et j'ajoute souvent ce target direct sur le target.
Non. En direct.
On revient dans pas long.
Radio X.